Nassaouiyat.
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 Saison 2. Les nouvelles féministes en France.
Épisode 5. Shaïma et Fatima.
On peut avoir sa religion. Pour moi, par exemple, être musulmane, pratiquante, voilée et vouloir lutter pour les droits des femmes. J'estime qu'on peut défendre une femme pour le droit de ne pas pratiquer une certaine religion, mais c'est très important aussi d'aider une femme à vivre avec sa religion et avec son identité, parce qu'on vous donne l'image que ce sont des femmes soumises ou des femmes qui sont commandées ou endoctrinées par leur mari, leur époux. Mais non, parce qu'en fait, on croit ça visuellement parlant, une image. Le plus important, c'est de pouvoir rassembler des femmes, parce que parfois, les femmes s'éloignent ou se séparent justement par rapport à des convictions ou un habit. Pourquoi se concentrer sur un voile ou sur une religion quand on est dans un pays libre? On peut dire qu'on a un groupe contre un autre qui le stigmatise.
Je pense qu'on est dans une période de grande confusion. Je pense qu'il faut se battre sur tous les fronts et ce n'est vraiment, vraiment pas anodin la question du voile, parce que si c'était si anodin que ça, il ne serait pas imposé dans tellement de pays. Et nous, à Aubervilliers, on en est à créer un collectif des femmes sans voile, parce que maintenant, à Aubervilliers, quand les femmes sortent sans voile, il y a des mecs qui viennent leur dire « Pourquoi tu sors sans voile ?» Moi, quand je vois une femme voilée, j'essaie d'avoir des discussions pour lui dire qu'elle est en train d'obéir à des injonctions d'un monde inventé par les hommes, pour les hommes, et qu'il n'y a rien de progressiste dans le voile. Pour moi, c'est un discours argument contre argument, tout simplement.
Nassaouiyat, les nouvelles féministes en France.
Les temps de Thau, à l'ouest de Sète, près de Montpellier. Des immeubles HLM posés sur une presqu'île.
C'est apaisant, je trouve.
De la fenêtre de Shaïma, on voit passer les bateaux.
On profite du sud.
Shaïma a 22 ans. Elle milite avec les femmes de son quartier au quotidien.
Il y a différentes personnes, il y a différentes mentalités, différentes origines. Bon, j'ai ma voisine juste là, je ne sais pas si elle est chez elle, qui est africaine, camerounaise exactement. Beaucoup de personnes d'origine maghrébine, la plupart des Marocains, bien plus que des Algériens. Il y a des Gitans. On peut dire que pas mal de personnes ont une double nationalité. On peut dire qu'ils arrivent à vivre ensemble. Moi, je suis d'origine algérienne. Mes deux parents sont algériens. Dans mon immeuble, je connais pas mal de gens, des jeunes filles étudiantes ou qui travaillent, ça dépend. Il y a de tout, on va dire. Parfois, on rentre dans des débats sans qu'elles se rendent compte qu'on est en train de parler de femmes ou de droits de femmes ou de ce qu'on pense. Donc, on se donne des idées ou il y a une opinion. Puis, elles ne se rendent pas compte spécialement que c'est dans ce travail-là. Mais ici, je trouve que de s'exprimer, c'est assez compliqué. Il faut avoir une personnalité et ensuite ne pas avoir peur du regard de l'autre et ne pas tenir compte. Et pour arriver à ce point, il faut vraiment être indépendant de tout ce qui est des on-dit. Parce que les on-dit ici, c'est... les on-dit sont très 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 présents. Mais moi, contrairement à ce que les on-dit et ce qu'on peut penser, c'est qu'on peut rassembler nos convictions religieuses et être une femme et vouloir être libre et pouvoir vivre comme on l'entend, comme on le sent. J'ai décidé de mettre le voile à la fin du collège. J'avais envie de le porter. Et puis à ce moment-là, mes parents pensaient que c'était pour les vacances, on va dire, parce que je rentrais d'Algérie, c'était les vacances et tout ça. Et puis ils se sont dit, elle est encore jeune, elle va s'amuser un petit peu, on va dire, et puis elle va l'enlever.
Parce que vos parents, ils ne voulaient pas que vous le portiez ?
C'est pas qu'ils ne voulaient pas, mais j'avais le choix ou de le porter ou de ne pas le porter. Donc je l'ai porté. Et puis, j'avais pas envie de l'enlever. Je l'ai enlevé au collège, à l'entrée. Mais j'avais pas envie de le retirer définitivement. Je le portais bien, je me sentais bien avec. Puis le voile, pour moi, ça fait partie de ma religion. Ça fait partie de mes engagements. Il est essentiel. Et à travers ça, par exemple, une petite parenthèse, une personne que je connais dans mon entourage, quand elle a appris que j'étais voilée, elle ne voulait pas l'entendre. Elle me disait « Non, tout le monde est voilé, mais toi, non. » Je disais « Mais pourquoi moi, non ?» Elle disait « Non, parce qu'en fait, pour elle, j'avais de bons résultats, j'avais des idées, j'avais pas de mal à les exprimer. » Donc, ce n'était pas les traits d'une femme voilée, parce que les traits d'une femme voilée, selon les clichés et selon elle, c'est une femme soumise qui ne sait pas communiquer, qui reste à la maison, qui cuisine et qui attend qu'un homme, n'importe lequel, que ce soit son père, son frère, son éventuel mari, qui vient pour lui apporter ce qu'elle doit. Puis en fait, elle m'a clairement dit « tu ne réussiras pas ». Je réussirai et avec mon voile, et je ne l'enlèverai pas. Je ne souffre pas, c'est mon choix. J'en suis très fière et puis je vis avec, c'est mon identité. Parce que malheureusement, dans le monde des féministes et des femmes culottes, il y en a pas mal quand même qui peuvent dire que la femme, elle est forcée de porter le voile et tout ça. Si cette femme est forcée de porter le voile, pourquoi la repousser? Si tu trouves que c'est contre la liberté, pourquoi tu les aiderais pas au lieu de les stigmatiser? Je trouve que ça, ce n'est pas du féminisme. Ce n'est pas de la lutte pour les droits de femmes.
Il y a beaucoup de féministes dont vous parlez qui, pour elles, le voile, c'est un signe anti-féministe. Exactement. Parce que c'est se couvrir les cheveux et donc c'est se couvrir du regard de l'homme.
C'est pas vrai. C'est totalement faux. J'ai fait mon choix de me couvrir. C'est un choix. Je fais ce que je veux. Donc, au lieu de rester sur comment s'habille une femme, je suis désolée, on ne va pas lutter pendant des années à habiller la femme comme elle veut. Parce que maintenant que vous avez lutté pendant des années et qu'on est arrivé à laisser la femme s'habiller comme elle veut, laissez-la s'habiller comme elle veut aujourd'hui dans les deux sens. On n'a pas besoin de la déshabiller. Elle peut aussi se couvrir. Comme moi personnellement, celle qui ne veut pas s'habiller, mais il n'y a pas de souci. Je l'aurais bien invitée ici, je l'aurais eu en face de moi. J'aurais dit oui, il n'y a pas de souci. Si c'est ce qui peut te faire plaisir et que ça peut te rendre heureuse dans ta vie et que tu peux réussir comme ça, je te respecte. Donc je vois pas pourquoi elle accepterait pas ce que je suis, tout en voulant juste avancer, tout simplement avancer. Parce que quel est le but d'aider la femme? C'est pour qu'elle puisse être indépendante, et pour qu'elle puisse travailler correctement, et qu'on la perturbe pas dans ses avancées, et qu'elle soit traitée comme un homme. Si le féminisme est comme ce que ces femmes veulent expliquer le féminisme, je le suis pas. Mais si le féminisme, c'est d'être une femme libre, et de pouvoir faire ses propres choix, que ce soit au niveau religieux, personnel, vivre correctement, oui, je le suis. J'ai porté le voile pendant plus de 6 ans, et puis il y a 1 an, j'avais décidé d'enlever. Je voyais que quand même pour trouver de l'emploi, pour pas s'intégrer au sein du pays, parce que je suis très bien, je suis française, j'ai même pas besoin de m'intégrer en fait. Je cherche même pas à parler d'intégration, je suis intégrée. Mais pour pouvoir intégrer des écoles, ou pour pouvoir être regardé pour notre intelligence ou ce qu'on peut avoir dans la tête, il faut s'adapter à la personne qui est en face de toi et te vêtir comme elle est, ou on va dire suivre la mode ou un groupe, une société. Donc du coup, je me suis dit, je vais voir, peut-être que j'arriverai mieux sans. Puis en enlevant, très très bien accueilli au sein de tous les endroits, que ce soit scolaire, pour un travail, pour les recrutements, d'aller acheter ne serait-ce qu'un billet de train avec le voile, à peine si elle, le bonjour, il est voilà, très strict dans le regard, et puis vous donne l'impression que vous n'arrivez même pas à déchiffrer ce qui peut être écrit, et de se faire regarder comme si on n'avait jamais fait d'études, qu'on savait pas. Et même si je ne savais pas écrire, il est où le problème? Pourquoi on a besoin de nous regarder comme ça? Puis on revient sans le voile. Bonjour mademoiselle, oui, il n'y a pas de souci, on va regarder les tarifs. Elle regarde, elle prend son temps, elle est souriante, très respectueuse. J'étais vue d'une façon... On voyait mes, on va dire, mes qualités. On m'écoutait, on ne s'éloignait pas de moi. On faisait des compliments quand même. Pourtant, je suis la même personne. Mais au fond de moi, le voile, je croyais en ça. Et puis, j'avais le besoin, il fallait que je le remette. Et puis, je l'ai remis parce que c'est moi. Je trouve que réussir en étant voilée, ça me rendrait bien plus heureuse que retirer, mettre de côté ma religion pour des gens que finalement, pour moi, ils n'ont rien compris. C'était pas la solution. C'est ma sphère privée, c'est pas à l'extérieur, j'en parle pas, je les revendique pas.
Et si c'est privé, si c'est intime, la sphère intime de la religion, pourquoi l'afficher à l'extérieur alors ?
Mais justement parce qu'on n'a pas, sachant que le voile c'est extérieur, ça se porte voilà, sur la tête, on n'a pas le choix de l'intérioriser. Si c'était possible de l'intérioriser, on l'aurait intériorisé, il n'y a pas de problème. Mais on ne veut pas du tout imposer notre religion. On veut simplement la pratiquer en paix, sans être stigmatisée. C'est aussi simple que ça. Personnellement, quand je monte dans un bus, de me faire regarder de travers ou la personne elle ne veut pas s'asseoir à côté parce que vous êtes voilée, elle est là, l'inégalité. Les principales victimes d'islamophobie, c'est des femmes. Pourquoi attaquer des femmes ? Pourquoi attaquer des femmes qui rentrent en centre commercial, arracher le voile, rentrent chez toi, et puis rentrent chez toi hein, une personne, son pays c'est la France, ses origines c'est la France. Pourquoi une femme ? Parce que pour eux, la femme, elle ne peut pas se défendre. Et au lieu que ces femmes-là, ces soi-disant féministes, on va dire, luttent pour aider toute femme, parce que c'est une femme, avant tout. Tout en laissant la religion, tout ça à côté, pensez à ça. Et j'aimerais être juge parce que on manque de neutralité. Et j'aimerais quand même que les origines, la religion, les clichés soient mis de côté. Et puis, dans la loi, ils ne stigmatisent pas un pays, une origine ou une religion, je suis désolée. Mais là, je demande simplement à être vue ou être entendue pour ce que je suis, pas pour ce que je porte ou mes convictions.
Paris, 14e arrondissement. Un squat installé dans un ancien hôtel.
Alors, je tiens vraiment à dire que normalement le squat est beaucoup mieux tenu que ça. Donc là, on est à l'entrée donc, du squat artistique féministe écolo comme c'est écrit. Quand le squat est rangé, ça se voit beaucoup mieux. Mais on a donc plein d'affiches aussi du mouvement du planning familial.
Fatima a 31 ans. Après un passage à Oser le féminisme, elle crée il y a 3 ans sa propre association, les Effrontées.
Il y a les Effrontées qui ont leurs locaux ici. Ça, c'est le phallus CV, c'est un truc qui fait très rire quand on le diff. C'est sur les inégalités salariales. En gros, pour être bien payé, il faut être un mec. Donc, on demande aux femmes d'avoir un phallus CV, c'est-à-dire d'être des hommes, quoi, booster votre, votre salaire. Et donc, c'est une façon rigolote de parler aux gens des inégalités salariales. Voilà. On est 10 à parité, 5 femmes, 5 hommes. Après, on n'a vraiment pas atteint la perfection, c'est-à-dire qu'il y a encore des comportements sexistes, parce que en réunion, c'est souvent une monopolisation masculine de la parole. Aussi, des discussions, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce que défend, en tout cas, le féminisme porté par les Effrontées. Des débats qui fâchent toujours la laïcité, la prostitution, c'est toujours les mêmes. À un moment, il y a eu un débat parce qu'il y a Singa, une association qui donne des cours à des réfugiés, qui a donné des cours ici, et ils ont ramené une nana qui était en burqa. Et donc, on n'était pas d'accord avec nous si on devait tolérer ça dans le squat. Alors, ce qu'on avait demandé à cette femme, c'était qu'une fois qu'elle entrait au squat, elle montrait au moins son visage. Pour nous, c'était très important qu'il y ait ce lien de confiance, et jusqu'au bout, elle a refusé. Et donc, nous, on était partis pour rester ferme sur cette condition, et d'autres n'ont pas voulu. Puis finalement, bon, c'est nous qui avons tranché. Mais
alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle n'est pas venue ?
On a dit à Singa qu'il se posait d'autres locaux, puisqu'il n'en avait pas assez, que pour ce cas-là, ce n'était pas possible.
Mais du coup, elle a pas pu profiter des cours, alors?
Si, elle a pu profiter des cours, mais ailleurs, Singa n'est pas complètement dépourvue de locaux.
Et elle a besoin d'aide, et du coup, vous la rejetez d'un endroit où elle pourrait être accueillie?
C'est un débat qui est extrêmement posé dans le mouvement féministe de comment on compartimente. Par exemple, certaines de nos missions sont celles d'accompagnement. Moi, en tout cas, en tant que militante, je sais que c'est par l'accompagnement de ces personnes-là qu'on peut arriver à les conscientiser. En revanche, nous avons tenu en France, comme en Tunisie d'ailleurs avec le FSM et tout, de ne pas accueillir dans des réunions ou dans des manifestations pour tenir nos banderoles, c'est-à-dire donner à voir les revendications du mouvement féministe, des femmes qui disent accepter librement de porter la burqa, le voile intégral, parce que une banderole, une manifestation, un lieu qu'on présente comme devant obéir à des valeurs universalistes pour les droits des femmes, hein, il n'y a jamais aucun homme en burqa qui va venir nous voir par exemple. Ça, c'est important que nos valeurs y soient représentées sans aucune ambiguïté. Et ce n'est pas les mêmes missions que les missions de permanence, comme quand on est assistante sociale, militante, au NID, ou dans des permanences de violences faites aux femmes. Là, ce serait absolument inacceptable de rejeter des gens. Encore que la burqa, comme c'est interdit en France, c'est pas comme une femme voilée, quoi.
Une femme voilée, le hijab, le voile simple, entre guillemets, pourrait porter votre pancarte ou pas ?
Les femmes voilées, voilà ce que je dis, c'est que pour des missions d'accompagnement, il n'y a aucun problème. Par contre, pour venir tenir la banderole, l'afficher, je vais vous donner un exemple. À un moment, le NPA avait présenté une élue voilée à des élections. Et bien, je vous assure que partout dans le monde, vu que la France est très scrutée, vu que c'est le pays de la Déclaration des droits de l'homme, partout, les islamistes, les partis islamiques ont brandi ça en disant « Regardez, même la gauche radicale émancipatrice française défend le voile et met en avant des candidates voilées, et nos copines au Maroc, en Tunisie, moi je suis marocaine, je sais que le PJD, le parti islamiste, a énormément instrumentalisé ça. Donc je pense que, par les temps qui courent en plus que jamais, l'attachement à la laïcité est non négociable.
Vous pensez qu'on peut pas être féministe et voilée ?
Je crois vraiment qu'il faut des droits universels, non genrés et mixtes, et je ne pense pas qu'il y ait une quelconque explication à un phénomène à ce point genré. C'est-à-dire que si ces femmes me disent, nous, on a choisi... Alors déjà, bizarrement, on parle de choix, alors qu'il n'y a aucun homme qui fait ce choix. Mais je veux qu'elle me dise quelle est cette société où le fait de cacher ses cheveux ne concerne que la moitié féminine de cette société. Je ne me l'explique pas, ça me paraît quand même très essentialiste et remettant en cause le fait qu'on est en train de voir que les femmes et les hommes peuvent avoir le même rapport avec leur corps, avec leur sexualité.
Et alors, comment vous êtes devenue féministe, vous, Fatima ?
Ça a été un long cheminement. Déjà, je suis née au Maroc. J'ai été sensibilisée à des questions très, très particulières, par exemple l'héritage. Parce qu'au Maroc, les femmes héritent deux fois moins que les hommes. Je trouvais ça très injuste que, parce que j'ai pas de frères, nos oncles allaient nous spolier de la moitié de notre héritage. Ensuite, il y a la question de la sexualité, c'est-à-dire que c'était même pas la peine d'envisager d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ce sont des petites graines qui ont été semées. Je sais aussi que j'aimais beaucoup le cinéma occidental, français, italien et tout, qui ouvrait des pistes sur la question des mouvements de libération. Quand j'étais au Maroc, j'étais très impatiente de venir en France et d'être vraiment ouverte à cette culture. Manque de bol, je suis arrivée en septembre 2001 à la rentrée. Qu'est-ce qui se passe ? Les attentats du 11 septembre. Et donc, toute la société s'est crispée, française s'est crispée sur la question musulmane et sans doute par réaction d'ego et d'appartenance à une énorme communauté musulmane partout dans le monde. J'ai oublié mes intérêts de femme et me suis accrochée à des intérêts, disons, de personnes qui ont grandi dans une culture arabe, musulmane et tout. Et donc, j'ai défendu cette société patriarcale en pensant que j'étais attaquée dans mon identité. Et donc, mon identité culturelle, à ce moment-là, m'est apparue beaucoup plus évidente que mon identité de femme. Et donc, je pouvais vraiment défendre des choses comme le voile, comme les mariages forcés, vraiment, en leur disant « Non, mais il faut que vous nous respectiez, c'est notre culture ». Voilà, en arrivant en France à 17 ans et demi, j'étais complètement réactionnaire contre le droit à l'avortement, contre très en opposition au modèle occidental, en lui opposant une culture, un repli communautaire finalement, une culture marocaine qui était essentialisée. Et c'est des années plus tard que j'ai déconstruit petit à petit tout ça. Ah oui, il y a eu un événement qui a vraiment provoqué pour moi une grande réflexion. C'est d'ailleurs la première fois que j'ai remis en cause mes préjugés quand je suis arrivée en France. C'est-à-dire que quand on était au Maroc, on avait nos copains marocains. Et j'en ai revu un en France qui est venu faire ses études. Et jusque-là, je défendais bec et ongle le contrat sociétal marocain, parce que pour moi, il était clair, voilà, toute la société marocaine ne fait l'amour qu'après le mariage et tout. Et donc, on va boire un café avec ce mec, et qu'est-ce qu'il me dit ? Donc, c'était vraiment un pote. Mais quand on vous raccompagnait, quand on avait 15 ans, quoi, entre 15 et 18 ans pendant le lycée, quand on vous raccompagnait à la maison, et qu'on vous faisait la petite bise, parce que vous étiez nos petites amies, et ça s'arrêtait là au Maroc, et ben nous, après, on allait voir les prostituées. Donc, en fait, le monde masculin marocain ne vivait absolument pas de ce contrat qu'on nous présentait, nous, les femmes. C'est au Maroc, on vous respecte, vous n'avez pas de rapport sexuel avant le mariage et tout. Mais en fait, les hommes, si. Les hommes jouaient ce petit rôle de petit marivaudage innocent où on se faisait des bisous sur la bouche. Et après, eux, ils vivaient leur libération sexuelle qui... s'organiser autour de l'exploitation des femmes. Il n'y a pas un mec, je pense, au Maroc qui arrive au mariage puceau, mais ça n'emmerde absolument personne. Et donc, il y avait une énorme inégalité et dans l'expérience sexuelle et dans le rapport femme-homme entre nous et nos petits copains du même âge. J'ai ouvert les yeux, c'est genre, je me suis dit, ils se sont bien foutus de notre gueule. Déjà, ça a été donc, c'était 2-3 ans après que je vienne en France, ça a été un déclic. Je me suis un petit restée petit à petit à la condition des femmes, à leur accès à la contraception, aux insultes sexistes qu'elles pouvaient avoir lieu dans le campus. Et donc, j'ai appris qu'il y avait encore des problèmes en France pour l'accès au droit à l'avortement, à la contraception, à l'information, au droit réel, parce qu'il n'y avait pas assez de centres IVG et que ça continue en plus à fermer. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment fascinée par l'image de la France. J'étais persuadée que voilà, on vivait, ben, la Méditerranée était l'incarnation de 3 siècles, quoi, et que je vivais des choses complètement moyenâgeuses au Maroc, et que arriver sur le sol français, ça allait changer. Et je me suis rendu compte que même en arrivant sur le sol d'un pays où dans sa constitution l'égalité femme-homme était inscrite, eh ben, on était quand même en lutte contre 500 000 ans de patriarcat qui a complètement organisé l'ordre social en France. En politique, on a droit de vote et d'éligibilité. En France, depuis 1945, on est encore à 27% à l'Assemblée nationale de femmes et à 25% à la Sénat. Après, en me documentant, j'ai bien vu que les droits des femmes en France étaient très récents. Hein, 1965, le droit des femmes à travailler sans l'autorisation de l'époux, les droits à l'avortement, le droit à la contraception, le droit même au vote et à la citoyenneté, c'était des acquis du siècle dernier. Je me suis rendu compte que voilà, on était toutes vers une pente du progrès pour les femmes, pour avoir des droits fondamentaux et ensuite pour les appliquer, et que donc on avait toutes la même aspiration à aller dans cette direction-là.
Bonjour. Contre l'exploitation, contre les patrons qui nous mettent la pression pour travailler le dimanche. 2 petites minutes pour signer la pétition.
Avec l'association Les Effrontés, Fatima organise de nombreuses actions coup de poing, comme des criées dans le métro pour sensibiliser sur les inégalités salariales entre hommes et femmes, ou des occupations de magasins pour enfants déguisés en Barbie pour dénoncer les jouets sexistes.
Bonjour madame, contre le travail du dimanche.
Aujourd'hui, Fatima tracte Place d'Italie à Paris.
Bonjour, contre la banalisation du travail le dimanche. Bonjour les jeunes, contre l'exploitation du travail le dimanche. Travail du dimanche, ce n'est pas ça ce qui nous arrange. Si on augmente nos salaires, on sera plus obligé de le faire. Projet de loi Macron, pour nous, c'est non. Ce sont des métiers concernés par l'extension du travail du dimanche qui sont très féminisés. C'est les caissières, c'est les vendeuses. C'est à 75-78% des femmes. Et en plus, comme en cas de séparation, c'est souvent les femmes qui ont la garde des enfants. Quand elles vont devoir travailler le dimanche, elles ne savent pas quoi faire des enfants qui ne sont pas scolarisés ce jour-là. Et donc, il faut qu'elles trouvent des moyens de garde, sachant que ou bien c'est coûteux, ou bien c'est galère de trouver une place en crèche. Donc voilà, les femmes sont davantage victimes de cette loi, encore pire que les hommes. Il se passe tout le temps des choses par rapport aux droits des femmes. C'est vrai que là, on déjà les attaques contre les droits des femmes, on en a eu beaucoup cette année. On a eu le ministère aux droits des femmes qui a été supprimé, on a eu les ABCD de l'égalité qui ont été supprimés de l'école. Il y a la PMA qui n'a pas été ouverte comme promis aux couples de femmes. Il y a la loi Macron, il y a la loi sur les retraites. Et à chaque fois, sur les questions économiques, étant les premières précaires, on est les premières concernées. Donc c'est sûr qu'on ne nous laisse pas de répit. Moi, je suis étrangère, donc c'est pas facile d'avoir un titre de séjour quand on n'a pas un vrai CDD ou un vrai CDI. Même chose pour le logement, c'est pour ça qu'avec les effrontés, on a ouvert un squat dans le 14e. Et comme on est partout aujourd'hui, j'ai pu, au nom des effrontés, envoyer un communiqué de presse très content par rapport à la Cour de cassation qui a validé un mariage entre un Français, Dominique, et un Marocain, Mohamed. Enfin, en gros, ils se sont assis sur le décret basé sur des accords binationaux qui fait qu'un Marocain ne peut pas épouser un homme de même sexe. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour les femmes. Donc parfois, la loi du pays d'origine prime sur la loi française, et même si c'est des résidents, voire même des gens qui ont la double nationalité. Et d'ailleurs, ce genre d'accords bilatéraux, binationaux, ça concerne beaucoup les femmes par rapport à leur statut. Par exemple, parfois, la loi algérienne prime sur la loi française, par exemple, par rapport à la répudiation. Donc il y a des hommes qui rentrent en Algérie, qui répudient leurs femmes selon les lois complètement farfelues de l'Algérie, où il suffit de le dire devant un juge et la femme se retrouve répudiée. Elle se retrouve vraiment avec ça qui est appliqué sur le sol français. Du coup, on négocie les principes de la République. Normalement, tu arrives sur le sol français, et ben, tu as les mêmes droits que tout le monde, et notamment liberté, égalité, et notamment sur les questions de mœurs qui sont extrêmement réactionnaires dans les pays d'origine. Et notamment, nous, les femmes qui venons du Maghreb, on subit un petit peu ce qu'on appelle un relativisme culturel, c'est-à-dire qu'on dit que certaines femmes qui n'ont pas les mêmes prétentions que les femmes occidentales à la liberté sexuelle et tout. Et donc, c'est important pour moi de montrer qu'il y a une gauche aussi, tout simplement, qui se bat, qui est laïque, qui porte des principes qui, pour nous, sont universalistes. La lutte des femmes contre le patriarcat se joue sur tous les sols de cette planète.
Nassaouiyat.
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 Saison 2, les nouvelles féministes en France.
Une émission de Charlotte Bien-Aimée, réalisée par Annabelle Brouard. Merci à Shaïma et sa famille, à Madeleine et Faouzia du Fonds pour les femmes en Méditerranée. Merci à Fatima et aux effrontés Sarah et Anaïs. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur notre site internet franceculture.fr, rubrique émission, Nassaouiyat. La semaine prochaine, épisode 6, Diata.